Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons entendu dans l'Évangile de la messe de minuit cette nuit, les anges annonçaient une grande joie à toute la terre, le Sauveur vous est né. À la messe du jour, les textes liturgiques tirés de la Sainte Écriture nous diront « Un enfant nous est né, un fils nous est donné ». Et dans l'Évangile de Saint Jean, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Nous nous poserons d'abord la question « Pourquoi un Sauveur ?» De qui s'agit-il ? Et enfin, quelle est sa mission ? Pourquoi un Sauveur ? L'histoire est là pour nous enseigner que les hommes se sont toujours adressés à des hommes exceptionnels pour se faire diriger et espérer des jours meilleurs. Des philosophes, des grands rois, etc. Aujourd'hui encore, les hommes cherchent un moyen, grâce à la science, d'améliorer leur sort en modifiant par exemple leur patrimoine génétique. C'est ainsi que s'est ouvert cette année aux États-Unis les premiers essais cliniques pour former des HGM, des hommes génétiquement modifiés. Donc former un homme nouveau qui aura une certaine perfection. Si les hommes sentent plus ou moins clairement le besoin d'un sauveur, c'est que leur état est tragique. Ils passent au plus 100 ans sur cette terre, avec beaucoup de souffrance, et disparaissent par la mort, alors que tout leur être aspire à vivre toujours et à être heureux. Ce que les hommes, ignorant les enseignements de la révélation, ou ayant perdu la foi, ou rejetant tout enseignement révélé, ressentent confusément, n'est autre que les conséquences du péché originel. Ils constatent par expérience leur état de misère et aspirent à y remédier, mais ils sont impuissants à y parvenir. Pour comprendre la nécessité d'un sauveur, il faut comprendre ce qu'a été l'état de l'homme à sa création et ce qu'il a perdu par sa désobéissance à Dieu. Dieu a créé nos premiers parents parfaits, jouissant de la connaissance, de la sagesse et de la grâce. Ils devaient parvenir sans souffrance à la gloire de la vision béatifique. Par leur désobéissance, ils ont perdu ces trois choses. Ils sont désormais détournés de Dieu, fils de colère, esclaves des trois concupiscences et sous la domination du démon, soumis à la souffrance et à la mort. Par ses propres forces, l'homme pécheur ne peut revenir à Dieu. Il n'est plus maître de lui. Il est fils de colère, dit saint Paul. Seul Dieu va pouvoir donner un remède contre le péché, car lui seul peut mouvoir la volonté de l'homme vers le bien, le ramener dans le bon chemin. Lui seul, Dieu, peut pardonner l'offense commise contre lui. Certes, dit saint Augustin, Dieu aurait pu réparer le péché par un autre moyen que l'incarnation, car il est tout-puissant. Mais il n'y avait pas de mode plus convenable de guérir notre misère que l'incarnation. Dieu ayant choisi ce moyen, il n'y en a pas d'autre par lesquels les hommes peuvent être sauvés. C'est pourquoi le texte de la Sainte Écriture dit « Le Sauveur vous est né ». Qui est ce Sauveur ? L'ange Gabriel l'avait dit 9 mois plus tôt à Marie, c'est le Fils du Très-Haut. Et saint Jean, dans son évangile, nous précise que c'est le Verbe de Dieu qui s'est fait chair, c'est-à-dire qu'il est à la fois Dieu et homme. Et saint Jean dit dans son épître qu'il l'a vu, il l'a contemplé, sa gloire sur le Tabor, la gloire que le Père donne à son Fils unique, plein de grâce et de vérité. Saint Paul, dans l'épître de la messe de l'aurore, nous dit que Dieu le Père nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde. Ce Fils unique est le rayonnement de la gloire du Père, l'empreinte de sa substance. C'est pourquoi, plus tard, quand l'enfant de la crèche aura grandi et mènera sa vie publique, il dira à l'apôtre Philippe, « Philippe, « qui me voit, voit le Père. » Dieu pouvait-il faire un plus grand don aux hommes ? Non. Donné Dieu lui-même. Et ce Sauveur, qui est à la fois Dieu et homme, est pour toute l'humanité et pour chacun d'entre nous. Ce don magnifique que Dieu nous fait en la personne du Sauveur a une mission sublime à remplir. Et elle le sera parfaitement. Dieu nous dit par le prophète Isaïe, « Ma parole sort de ma bouche, c'est-à-dire mon Verbe, la deuxième personne de la Sainte Trinité, et ne revient pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ce que j'ai voulu et accompli, ce pourquoi je l'ai envoyé. » Et le prophète prend la comparaison de la pluie et de la neige qui tombent du ciel, viennent féconder la terre et produire la verdure et les fruits et enfin nourrir les hommes. Et après, elles retournent, elles descendent les fleuves, s'écoulent dans la mer et retournent au ciel par l'évaporation. L'homme, par le péché, s'est écroulé dans la faiblesse, l'ignorance et la malice. Et il est devenu incapable d'imiter la perfection divine, de connaître la vérité divine et d'aimer la bonté divine. En se faisant homme, Dieu s'offre à l'homme comme imitable, aimable et connaissable. Le Sauveur, chef de l'humanité, en raison de ses deux natures, unies dans l'unique personne du Verbe, va pouvoir satisfaire pleinement à la justice divine, détruire le péché, la mort, vaincre le démon et nous réconcilier avec Dieu. Il nous a mérité le pouvoir de devenir fils adoptifs de Dieu. La nature humaine qu'il a revêtue dans le sein de Marie va lui servir d'instrument pour nous communiquer sa divinité. Sa naissance humaine devient le moyen de notre naissance divine. Le Fils de Dieu, dit saint Augustin, s'est fait fils de l'homme pour faire des hommes des fils de Dieu. Il s'est acquis des frères par son sang, réprouvé, il a réhabilité, vendu, il a racheté, injurié, il a honoré, tué, il a vivifié. Et le saint ajoute, il n'y a aucun doute qu'il nous donnera ses biens, lui qui n'a pas dédaigné recevoir de nous tous les maux. Et par ces paroles, on comprend avec quelle confiance tout pécheur peut s'approcher du Sauveur. Un impie aurait pu dire avant la venue du Sauveur, « Dieu ne peut pas nous comprendre, il ne sait pas ce que c'est que d'être homme. J'aimerais le voir comment il s'y prendrait pour pratiquer la vertu, supporter les maux de cette vie sans se plaindre, ne pas se venger du mal qu'on nous fait subir, résister aux tentations. » Depuis la naissance de Jésus, cela s'est réalisé à la perfection. Les hommes ont vu Dieu vivre au milieu d'eux. Jésus nous a montré comment nous devions vivre depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Il nous a enseigné la doctrine de vérité qui conduit à la vie éternelle et il a pratiqué cet enseignement. Il nous a montré comment souffrir, comment mourir. Pour l'imiter en tout, il nous a acquis la grâce qu'il nous donne, si nous la demandons, demandez et vous recevrez. Et cette grâce qu'il nous donne dans les sacrements nous donne le pouvoir de lui ressembler. Puisque le Sauveur nous est donné en cette fête de Noël, ne refusons pas le don que Dieu nous fait dans son Fils bien-aimé. Et quel don ! Dieu, dit saint Paul, nous ayant donné son Fils, en qui et par qui toute chose subsiste, comment ne nous aurait-il pas donné avec lui toute chose ? En lui, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En lui, nous avons été prédestinés. Dieu nous a rendu la vie dans le Christ, alors que nous étions morts par nos péchés. Il nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. Voyez, le fait d'être ressuscité, être déjà dans la gloire du ciel, c'est déjà acquis. Il ne tient qu'à nous de l'obtenir en étant fidèles. Un tel don manifeste l'amour infini du donateur. Alors, à l'exemple de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus au pied de la crèche, laissons-nous attirer par cet amour d'un Dieu qui a voulu se faire si humble si doux, si aimable. Et redisons avec elle, avec foi. Ô Verbe, ô mon Sauveur, c'est toi l'aigle que j'aime et qui m'attire. C'est toi qui, t'élançant vers la terre d'exil, a voulu souffrir et mourir afin d'enlever les âmes et les plonger jusqu'au centre de la Sainte Trinité, éternel foyer d'amour. C'est toi qui, remontant vers l'inaccessible lumière, reste caché dans notre vallée de larmes sous l'apparence d'une blanche hostie, et cela pour me nourrir de ta propre substance. Alors, mes frères, en ce jour de Noël, approchons-nous de la Sainte Communion, tout à l'heure, avec une grande foi, une grande confiance. Si Jésus nous a demandé de venir le recevoir dans la Sainte Communion, c'est parce qu'il veut nous changer, nous transformer, faire de nous des fils de Dieu. Et ce Jésus que nous allons recevoir, c'est le même Jésus que les bergers ont adoré à Bethléem. Alors demandons à la très sainte Vierge Marie de mettre dans nos cœurs les dispositions nécessaires afin que nous le recevions avec toute l'attitude qu'il convient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.